Bonjour Philippe Vassé.
Bonjour.
Nous parlons de votre dernier livre paru aux éditions Fayard pour la rentrée littéraire, La Conjuration. Vouliez-vous prolonger l'ambiance d'un livre blanc qui était paru en 2007, où vous partiez en exploration dans les zones blanches de Paris? Est-ce que La Conjuration, c'est une continuation du livre blanc?
Non, c'est plutôt la tragédie d'une perte, la ruine d'un livre blanc. En fait, c'est un contre-livre blanc. Dans le livre blanc, je m'étais servi de la carte IGN pour mettre à jour des espaces qui échappaient à la description et même enfin, au travail cadastral, quoi, qui n'avait pas d'existence administrative ni cadastrale. Et en fait, 7 ans après, j'ai commencé à voir ces espaces disparaître progressivement sous les coups de boutoir de projets d'aménagement divers, que ce soit des projets privés, des centres commerciaux, des immeubles de logement, ou bien des projets d'urbanisme de la ville de Paris. Et donc c'est pas donc ça le prolonge pas tellement, en fait ça c'est plutôt un procès-verbal de la perte de ces endroits-là, dont finalement j'aurais pu jouir que 6 ans.
Parce qu'on retrouve ce même narrateur. Dans un livre blanc, on comprend que c'est quand même un peu vous, même beaucoup vous.
C'est explicitement moi, oui, dans le
Voilà.
livre blanc.
Mais ça continue dans La Conjuration. Vous faites référence, enfin, ce personnage qui revient sur Paris, c'est encore un narrateur omniscient qui dit je. On sent au début du livre que c'est vous, Philippe Vassé. Après, on va en parler petit à petit. On a l'impression que ce n'est plus vous. Mais au début, on a l'impression que c'est le même personnage, le même vous, Philippe Vassé, qui passait du livre blanc à La Conjuration.
Disons que c'est autant dans La Conjuration, que La Conjuration, c'était un livre blanc, pardon, c'était un récit. Donc c'était important qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la personne qui parle. Autant La Conjuration, c'est pas un récit, c'est un roman. Donc c'est vrai que le narrateur me ressemble beaucoup, mais la question que ce soit moi ou pas moi est finalement assez accessoire, en
Oui, tout
fait.
à
Il y a
fait.
La seule continuité qui vaille, en fait, c'est beaucoup moins la continuité du narrateur que la continuité des espaces, ou plutôt le témoignage de leur disparition, en fait. Même si ce n'est pas du tout un livre nostalgique, c'est un livre. C'est le récit d'une exclusion, en fait. En écrivant des livres, j'ai trouvé certains lieux sur lesquels j'ai pu vivre. Une vie semi-réelle, semi-rêvée pendant 6 années, et puis je m'en suis fait exclure, en fait, et cette exclusion a donné lieu à un autre livre, en fait. C'est vraiment cette correspondance-là. Donc la vraie correspondance est celle des espaces plus que de la personne qui parle.
Alors, ce narrateur revient sur Paris, se balade à nouveau dans la ville, et là, il y a cette activité de piéton. Vous insistez sur l'activité de piéton comme une activité sérieuse, une activité à part entière.
C'est-à-dire, oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que je dis les choses comme ça? Parce que souvent, ce que j'ai pu écrire, en particulier un livre blanc, a été beaucoup repris ou amalgamé à quelque chose comme un éloge de la promenade, ce qui n'est certes pas mon propos. Je marche parce que, enfin, pour moi, il y a une espèce de circulation entre marcher, écrire, lire, en fait. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Je marche dans des bibliothèques, j'écris en marchant, enfin, tout ça est très lié. Donc, c'est pas du tout de la promenade. Pour moi, la promenade, c'est vraiment une chose familiale qu'on fait le dimanche après-midi, etc. Des choses vraiment très lourdes et assez anxiogènes. Et donc c'est pour ça que le fait de parler du piéton comme une activité à part entière, c'est le l'idée de, y compris d'une activité littéraire à part entière, c'est de sortir un petit peu de cette idée de la promenade, du délassement, du loisir, du j'ai bien travaillé donc je vais me promener en fait. C'est plutôt moi je travaille en marchant et inversement.
Vous ajoutez même, les vrais piétons sont rares.
Oui, c'est vrai.
Pour singulariser l'activité.
Oui, parce qu'en règle générale, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en règle générale, les gens qui sont capables et aiment marcher longtemps dans un environnement urbain sont assez rares. En règle générale, les gens qui marchent longtemps sont précisément des promeneurs ou plus particulièrement des randonneurs, ce qui n'est certes pas mon cas. L'autre chose qui est assez rare, c'est que pour moi, être un piéton, ça consiste à marcher partout et pas seulement dans les espaces balisés, autorisés et faits pour ça, en fait. Et en ville, c'est aussi assez rare. En général, on marche dans les espaces autorisés et plus particulièrement, d'ailleurs, dans les espaces conçus pour ça. Toutes nos villes, aujourd'hui, ont des promenades, qui sont souvent, d'ailleurs, des espaces réhabilités, etc. Donc, c'est les endroits où on marche en famille, on parade un peu, enfin, ce lieu très 19e siècle. Donc voilà, pour moi, être piéton, c'est pas être promeneur, pas du tout.
Le narrateur de la conjuration, au cours d'une de ses pérégrinations, rencontre le deuxième personnage clé, enfin, ou le premier personnage clé, hormis le narrateur, de votre livre, Philippe Vassé, une ancienne amitié qui cherche à créer une secte, de la même manière qu'on crée une entreprise. Et là, votre livre déjà connaît un premier basculement, puisque le narrateur va être embauché quelque part par ce personnage et va rechercher à la fois des scénarios et à la fois des lieux.
Oui, en fait, il est... Non, ce second personnage qui s'appelle André est un peu comme le narrateur, un semi-écrivain. Le narrateur est un espèce de personne qui fait des travaux d'écriture, mais qui n'écrit pas de livres, sinon pour les autres. Et le second personnage, André, est quelqu'un qui a, lui, écrit des livres, enfin, qui a plutôt signé des livres, même si c'est pas lui qui les a écrits. Et qui a fait carrière là-dedans, c'est un ancien auteur à succès en fait. Et s'étant lancé dans la littérature pour gagner de l'argent et pour en gagner beaucoup, quand il en gagne moins, bah, il change d'activité et son autre activité, c'est en effet de mettre en place des groupes religieux, si possible rentables. Ce qu'il demande au narrateur, exactement comme il a pu demander à ses nègres quand il écrivait des best-sellers, c'est de lui trouver des détails et de la documentation, et en particulier des lieux de culte. Donc le narrateur, qui est immensément riche d'un savoir absolument inutile sur la ville, les lieux, l'organisation de l'espace, ces régions les moins connues et les moins fréquentées, trouve là la possibilité de faire fructifier cet énorme savoir et donc accepte.
Et là, il y a une réflexion sur, bien entendu, les sectes, mais sur l'écrivain, l'écriture, puisque vous reliez les deux, vous faites une petite généalogie, Philippe Vassé, vous allez parler d'Acéphale avec Georges Bataille, vous avez parlé de groupes autour de Mehdi Belhaj Kassem, et bien entendu, vous avez parlé de celui qui a vraiment réussi à faire secte en étant écrivain, c'est René Bard.
Absolument, c'est une espèce de généalogie des non pas des écrivains gourous, parce que je ne sais pas si on peut dire que Bataille était véritablement un gourou, mais en tous les cas, des écrivains créateurs de religieux, mais créateurs de rituels, en fait. Et le tout l'intérêt en fait de ces gens-là pour le narrateur et pour son, celui qui est devenu finalement son employeur, c'est que les rites créés par les écrivains sont créés avec plus de soin que les autres et en règle générale survivent à l'écrivain. Ce qui est le cas de la meilleure exemple de ça étant René Bard qui est mort et a créé des mythes et surtout des rituels en fait suffisamment forts pour que la scientologie continue de prospérer après lui.
C'est ce que vous écrivez, c'est parce qu'il repose sur des textes et non sur la seule séduction d'un leader.
Oui, et puis puisqu'il repose sur des protocoles, sur des mythes, donc du coup je développe un peu ça, j'imagine les religions qu'on pourrait créer. Depuis la parution du livre, j'ai d'ailleurs appris que certaines des hypothèses que je développe sont effectivement vraies, et notamment qu'il y a effectivement des groupes religieux qui sont créés autour des livres de Lovecraft. Ce que j'ignorais, je savais qu'il y avait eu des jeux de rôle autour des livres de Lovecraft, mais pas qu'il y avait eu des véritables groupes cultuels autour des mythes de Cthulhu, en fait. Donc j'imagine ça, j'imagine d'autres écrivains, enfin l'univers d'autres écrivains qui auraient pu donner lieu à des groupes religieux.
Et pourquoi ça vous fascine au point d'en faire un livre? Parce qu'on sent dans vos précédents livres, Philippe Vasset, qu'il y a toujours cette question de la littérature, de la création littéraire qui tourne un petit peu, auquel vous tournez autour, bien entendu, de votre premier livre, qui est exemplaire de démonstration. Il y a toujours cette question de création littéraire qui vous omnubile et qui est vraiment présent à nouveau dans la Conjuration. Déjà, ce sont des écrivains ou des semi-écrivains, comme vous venez de le dire. C'est le narrateur et André.
Je ne sais pas très bien pourquoi je reviens toujours là-dessus. Il n'y a pas de... Comment dire L'espèce de mécanique fictionnelle, en fait, je comme quelqu'un qui a un peu trop lu, exactement comme le narrateur est avec cette espèce d'énorme masse d'informations sur la ville, je suis quelqu'un qui a lu un peu trop de livres, et donc j'ai cette énorme base de données dont je fais pas grand chose à part justement l'organiser, la permuter, imaginer des mécanismes générationnels. Donc c'est vrai que c'est assez présent dans mes livres. Je trouvais ça et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est tous les moments où cette espèce de savoir-faire fictionnel en fait déborde du livre et de la fiction pour arriver dans l'économie, voire dans le culte, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'allais chatouiller tout ça. En règle générale, j'aime bien importer dans le... Enfin, exporter hors de la littérature des questions fictionnelles et importer dans la littérature des questions économiques. Et souvent les deux se rejoignent, ce qui est le cas là, ce qui était le cas dans l'exemplaire de démonstration. Il y a mes personnages sont assez rarement des écrivains désintéressés, c'est toujours des gens qui veulent faire de l'argent, qui sont pour cette espèce de désir un peu pas petit bourgeois, mais de cette volonté de faire du fric en fait, de pas faire seulement des livres en fait.
Mais il y a aussi un enjeu de pouvoir, le pouvoir de la fiction. Dans Carte Maître, il y avait cet enjeu de pouvoir. Dans La Conjuration, il y a aussi, Philippe Vasset, l'enjeu du pouvoir de la fiction, à quel point la fiction qui peut être inventée peut séduire. Là, il y a une question de séduction aussi à travers des rituels, à travers une mise en place d'une fiction. De la séduction, c'est le propre des sectes. Mais vous en faites aussi un élément de réflexion sur... le pouvoir de la littérature.
En fait, je ne sais pas si c'est vraiment une réflexion, mais en tous les cas, c'est le livre adopte un double point de vue, en fait. Et s'il y avait un projet dans ce livre-là, c'était vraiment celui-là. C'était d'adopter le point de vue de quelqu'un qui construit en effet une fiction qui a pour but de séduire, pour des motifs peu avouables, et la même personne qui est, elle, sujette à une séduction extrêmement forte d'un, d'un projet qui la dépasse et qui va terminer comme ça, complètement fascinée par, par un projet qui finalement est de, un peu de même nature, qui est une fiction un peu plus vague, mais qui est quand même... qui est quand même un projet qui est autre que politique ou qui est autre que qui est autre qu'explicitement religieux, qui est finalement plus fictionnel qu'autre chose.
Votre narrateur va rencontrer Jeanne, une deuxième personnage clé et important de la conjuration. Et avec Jeanne, il va vivre des aventures qu'il n'avait pas pu vivre jusque-là, parce qu'il était piéton. Certes, il allait dans des lieux qui étaient pas forcément fréquentable, mais avec Jeanne, il va apprendre autre chose.
Ben en fait, il est, il accède à ce qui pour moi est probablement la, la chose la plus désirable dans la ville, c'est le avoir la possibilité de d'abolir la distinction entre espace public et espace privé. Et le pour filer la, la métaphore cultuelle, Jeanne est une espèce de d'officiant qui lui enseigne des gestes qui sont à la fois des gestes très pratiques, mais qui tiennent aussi du geste sacré et qui permettent d'ouvrir toutes les portes, de pénétrer dans tous les lieux. Tout est sacré puisque plus rien ne l'est. Le passage désacralise tout, mais en même temps on resacralise pour les gens qui passent. Donc Jeanne est cette espèce de on sait quasiment rien d'elle, en fait. Non qu'on sache beaucoup plus du narrateur, d'ailleurs.
Une sorte d'espionne.
Ouais, c'est pas une sorte, en fait, mais c'est une ancienne fonctionnaire d'une unité qui existe vraiment, qui est d'ailleurs explicitement nommée dans le livre, et qui est spécialisée dans le ce qu'on appelle les rats d'hôtel, en fait. C'est des gens qui pénètrent dans les chambres d'hôtel ou sont soit des terroristes, soit des hommes d'affaires dont l'activité intéresse l'État, et pour fouiller leurs chambres. Et donc, elle a un petit peu développé ce savoir, et elle est aujourd'hui capable de rentrer à peu près partout. Et une grande partie du livre est consacrée à expliquer... justement les gestes qu'elle enseigne au narrateur, parce que pour moi le sacré est d'autant plus fascinant qu'il est explicitement décrit. Et d'ailleurs les livres religieux les plus intéressants sont les livres d'officiants, en fait, comment on fait, à quel endroit on se place, etc. Et tout. Donc tout ce que fait Jeanne, en fait, est vraiment décrit extrêmement précisément. J'encourage tous les lecteurs de mon livre à tester ce qu'elle décrit, parce que ça marche. Mais c'est aussi, voilà, il y a cette volonté de... le narrateur se retrouve là en position d'apprenti, en fait, mais aussi d'initié, en fait.
Et vous écrivez quasiment, effectivement, un guide d'apprentissage.
Absolument.
Et alors, je me suis posé la question, en tant que lecteur, mais d'où viennent ces informations? Comment vous avez réussi à rendre cela aussi réaliste que possible?
Ah bah,
alors,
c'est pas
je vous imagine vraiment pérégriner dans la ville à tester, à mettre en pratique.
Ah non, c'est, enfin oui, il y a, tout a été mis en pratique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour moi, la fiction ne commence et n'est véritablement intéressante que à l'extrême pointe du réel, en fait. Donc tout est ultra documenté, donc j'ai fait un entretien, plusieurs entretiens très longs, et puis des séances avec quelqu'un qui a ce métier-là, en fait. Donc voilà, donc tout est, c'est quasiment de la transcription. C'est un peu condensé, parce que sinon ce serait un peu ennuyeux. Mais voilà, donc c'est pas du tout... De toute façon, le livre est une fiction, mais il y a finalement 5% de fiction dans le livre. Tout est, les lieux existent. C'est précisément parce qu'ils existent, je trouve que... Enfin, moi, les lieux imaginaires ne m'intéressent pas tant que ça, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est les lieux réels et leur béance. Ça m'intéresse. Mais et pour moi, la fiction, elle est là, en fait. Elle n'est pas tellement dans le fait d'inventer des choses ex nihilo. Je me suis rendu compte, par exemple, que j'étais quasiment incapable de lire des livres traitant de villes intégralement imaginaires. J'adore Jean-Christophe Bailly, par exemple, je ne peux pas lire Description de l'Aune. Parce que, justement, il me semble qu'il y a toute une partie de tout l'intérêt de la littérature urbaine qui manque à ça. Des livres même extraordinairement mineurs comme celui que je cite en épigraphe, par exemple, Paris n'existe pas, qui est pas un grand livre, mais m'intéresse mille fois plus que des livres sur des villes imaginaires, précisément parce qu'il y a ce jeu. Pour moi, la fiction, c'est vraiment ce jeu-là. En tant que lecteur et en tant qu'écrivain, j'ai envie de me trouver à l'endroit où la ville, enfin le sol manque, en fait, et qui sont souvent des endroits assez réduits. C'est souvent par ça que pêchent d'ailleurs les inventeurs de villes. Ils ont des désirs absolument grandioses d'espaces tellement imaginés, etc. Mais en fait, la fiction, elle est vraiment dans des trous de serrure. Et moi, je m'intéresse plus aux trous de serrure.
Est-ce qu'on pourrait dire, dans ces cas-là, Philippe Vasset, que la fiction vous fait vivre des aventures? Parce que ça se lit aussi comme un livre d'aventure, la conjuration.
Complètement.
Est-ce que vous vivez des aventures pour écrire de la fiction, ou est-ce que le fait d'écrire des fictions vous pousse à vivre des aventures?
Je ne saurais pas hiérarchiser. C'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure sur lire, écrire, marcher, en fait. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne en boucle. Par exemple, j'ai commencé à marcher dans la ville parce que je lisais beaucoup, en fait. Au départ, je marchais pas du tout. Puis j'ai commencé à marcher pour aller vérifier des choses qui étaient dans des livres. Proust, par exemple, parce qu'il n'y a aucune adresse quasiment dans Proust. Donc c'est très compliqué d'arriver à borner l'espace où se passe la recherche, ou tous les livres, tous les romans policiers du début du XXe, etc., où il y a souvent des adresses précises de lieux qui ont l'air assez étonnants. Donc j'ai commencé à marcher comme ça, et puis ça a entraîné l'écriture, ça a entraîné encore plus de lectures, etc. Et le rapport... le rapport fiction-vie est un petit peu la même chose. Souvent, mes livres sont des plateformes ou des tentatives de construction de situation où j'espère qu'il se passera quelque chose. Mais ça peut complètement tomber à plat. Dans un livre blanc, la moitié des choses tombaient à plat, d'ailleurs. Et je le racontais. Dans La Conjuration aussi, il y a des choses qui tombent à plat, il y a des angles morts, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc le livre permet ça. Les aventures réussies viennent le nourrir, les aventures ratées viennent le nourrir aussi. Et mais à l'origine du livre conçu comme plateforme de situation, il y a quand même la lecture. À la base, ça s'élabore comme ça quand même. Ça reste malgré tout un livre de lecteur c'est pas un livre qui est saturé de références, pas du tout, mais certains lieux sont comme rétro-éclairés par le fait que d'autres écrivains en ont parlé. En même temps, ça c'est vraiment important parce que c'est quelqu'un qui... Il y a pas mal de gens qui m'ont dit ça depuis que le livre est sorti. J'ai pas Peut-être à cause de la nature des lieux qui m'intéressent, j'ai pas l'impression que Paris soit une bibliothèque, par exemple. Aussi parce que je me promène moins dans le 5 ou 6e arrondissement que dans des lieux moins bornés. Mais j'ai pas l'impression de retomber tout le temps sur des lieux qui ont été déjà décrits ou des choses comme ça. Ça m'arrive de les croiser, mais c'est tout.
Votre narrateur, à la suite de la formation par Jeanne, il va se passer quelque chose dans le dernier quart de votre livre, et c'est ce qui donne le titre de votre livre, Philippe Vasset, La Conjuration. C'est quoi la conjuration? Ce n'est plus de l'ordre de la secte. Il y a des personnes qui vont suivre le narrateur dans son aventure. Il crée là quelque chose, mais qui n'est plus une secte, ou qui n'est pas une secte. Qui est autre chose.
Qui est autre chose, oui, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, qui a finalement plus à voir avec la fiction en action qu'avec un groupe religieux, mais qui est quand même qui est un groupe très monacal. Au fur et à mesure que le livre se termine sur une règle monastique, un texte qui ressemble beaucoup à une règle monastique. Je ne sais pas vraiment, je ne saurais pas le définir la nature du groupe qui clôt le livre. C'est un groupe qui absorbe tous les jeux, il n'y a plus qu'un nous. C'est un groupe qui, fort de son savoir, fort de sa capacité à abolir la distinction entre espace public et espace privé, transforme la ville habitée en un espèce de désert où ils circulent comme une caravane de nomades, en fait, vivant de chasse et de cueillette, ne thésaurisant rien, ne faisant que circuler et observer les habitants de la ville comme on observera une faune étrangère, en fait.
Mais ça, c'est de votre propre invention. Ou est-ce que vous êtes servi d'éléments déjà existants?
En fait, je trouve que peut-être j'aurais pas dû dire que le personnage de Jeanne était calqué sur un personnage réel, parce que c'est très important pour moi d'être le plus près du réel possible. En même temps, la question de savoir si moi, l'auteur, j'ai expérimenté ce qui est décrit dans le livre, je trouvais pas tellement intéressant. C'est une question typiquement d'autofiction, en fait. Les gens, tout le projet littéraire des gens qui font de l'autofiction, c'est ça, en fait. L'ambiguïté sur est-ce que j'ai vécu ou est-ce que j'ai fantasmé, et l'espèce de mystère un peu de toc qu'ils peuvent en éprouver et surtout en projeter autour d'eux. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas du tout. J'ai travaillé pour écrire cette partie exactement comme j'ai travaillé pour écrire les autres parties. Est-ce que j'ai vraiment emmené un groupe de dévots dans la nuit dans les bureaux de la Défense? Peu importe, en fait. Voilà.
Mais je me suis posé une deuxième question, à savoir si cette conjuration pouvait représenter un mode de vie viable. Je m'explique. Disons. Dans vos précédents livres, Philippe Vasset, j'ai l'impression quand même qu'à chaque fois, vous recherchez quand même à produire non seulement une réflexion, mais à produire aussi des exemples. Dans Exemplaires de démonstration, il y avait l'exemple de produire en masse de la littérature. Dans Carte muette, c'était autre chose. Dans Un livre blanc, c'était comment vivre des aventures à partir de cartes. Même aussi dans vos deux précédents, Journal intime d'un marchand de canons, Journal intime d'une prédatrice. À chaque fois, il y a tellement d'éléments factuels que vous menez une réflexion pour savoir si est-ce que c'est viable ou pas ce que je préconise quelque part dans ma fiction. Et je me suis posé cette question sur voilà, ce groupe de personnes qui, effectivement, telle une caravane invisible, traverse l'urbain. Est-ce que c'est un mode de vie qui pourrait être éventuellement viable?
Ah oui, je pense complètement. Enfin, d'ailleurs, c'est décrit comme tel. Il n'y a pas de.
À la fois viable et à la fois peut-être souhaitable. Est-ce que ça peut apporter une solution à quelque chose?
Une solution à quelque chose, je ne sais pas. Moi, ça me semble désirable, en tous les cas. Et c'est après tout ce qui m'importe. Je pense que si ce type de fonctionnement se généralise, oui, ça aura forcément ça aura forcément des conséquences. Je pense que c'est tout à fait faisable. Il y a des gens qui le font. Alors, peut-être pas dans les largeurs que je décris, mais il y a, je raconte dans le livre le personnage de cet ancien vigile qui a gardé les clés de l'immeuble qu'il gardait et qui revient vivre. Ça, c'est des choses qui existent. C'est des événements suffisamment mineurs pour que ça ne suscite pas d'articles de journaux, etc. Mais c'est des choses qui existent. C'est même un problème souvent pour les compagnies de vigile. Parce qu'ils ont beau changer les cartes d'accès, etc. Les gens connaissent tous les accès, donc savent très bien comment rentrer dans ces endroits. Et peuvent y stocker des choses, par exemple. Donc voilà, donc ça existe déjà. Oui, je pense que ça peut tout à fait se généraliser. C'est pas j'ai pas écrit s'il y a une chose que ce livre peut être beaucoup de choses, mais s'il y a une chose qui l'est pas, c'est bien un manifeste. Donc c'est pas pas jeunes gens de France envahissaient les tours de bureau. Mais évidemment, si ça se passe, je serai premier avis.
Merci Philippe.
Merci beaucoup.